Amen, Jésus, alléluia, alléluia. Nous ouvrirons l'Écriture sainte dans le deuxième livre des Rois au chapitre 5. Revenons sur une partie du texte que nous avons eu l'occasion de voir il n'y a pas longtemps, pour nous attacher à un point plus précis. Deux Rois chapitre 5 au verset 10, donc nous sommes là avec le récit du miracle de la guérison de la lèpre de Naaman le Syrien. Et voilà ce que nous lisons au verset 10, ce que Élisée a fait dire à Naaman. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité. Et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Amen. Voilà. Alors, nous avons lu ces versets afin de donner une réponse à la question que Naaman pose au verset 12 quand il demande quelle est la supériorité du Jourdain sur les eaux de son pays et au-delà sur toutes les autres eaux. Et dans son cas, Dieu lui a répondu en opérant pour lui le miracle de la purification de la lèpre, de sa lèpre, dans les eaux justement de ce Jourdain choisi par Dieu. Mais pour ce qui nous concerne, le Jourdain est aussi un fleuve particulièrement important puisqu'il est beaucoup question de lui dans la parole de Dieu. Et il y a en effet dans les caractères même de ce fleuve et dans les mentions qui en sont faites à la parole de Dieu, toutes sortes de choses étonnantes, toutes sortes de choses salutaires et étonnantes qui font qu'il est bon que nous puissions nous y arrêter aujourd'hui. Tout dans ce fleuve est enseignement de Dieu, édification et bénédiction, pour peu que nous sachions y être attentifs. Tout d'abord le nom Jourdain. Jourdain, ça veut dire en premier « celui qui descend ». Celui qui descend. Et c'est effectivement, quand on regarde le cours du Jourdain, bon, tous les fleuves descendent, me direz-vous, mais c'est quelque chose de particulièrement frappant pour le Jourdain, puisque c'est le seul qui descende jusqu'à 336 mètres au-dessous du niveau de la mer, puisqu'il descend pour se jeter dans les eaux de la mer morte, qui sont à cette profondeur-là. Donc voilà, celui qui descend, et ainsi, avec ce titre, eh bien, il nous parle de l'existence. L'existence qui est une descente depuis l'impétuosité de la jeunesse, comme le Jourdain est impétueux dans son cours supérieur, jusqu'à la mort, qui peut être aisément et justement représentée par la disparition du Jourdain dans les eaux stériles de la mer morte. Et vous avez une autre étymologie qui permet de traduire aussi Jourdain par « la rivière est le juge ». La rivière est le juge, et ça nous parle plus précisément de la responsabilité du croyant. En effet, l'Épître aux Corinthiens nous dit « l'homme spirituel juge de tout ». L'homme spirituel juge de tout, et il nous a dit dans la même épître qu'un jour les fidèles auront à juger les anges déchus bien sûr, quand le moment sera venu. Et donc, c'est dans ce deuxième sens que nous voulons parler spécialement du Jourdain aujourd'hui. En effet, nous pourrons voir diverses nécessités qui nous sont enseignées par le Jourdain. Nous pourrons parler de la nécessité de la nouvelle naissance déjà. En deuxième, nous pourrons parler, Dieu voulant, de la nécessité de la victoire sur l'ennemi. En troisième, de la nécessité d'avancer rapidement dans la voie de Dieu. En quatrième, de la nécessité de l'assemblée. En cinquième, de la nécessité d'apporter la bénédiction là où Dieu nous place et là où il nous fait passer. En sixième, la nécessité de veiller à cause de l'adversaire, de l'ennemi. Et puis, en septième, la nécessité de prendre garde à la mort spirituelle. Parlons tout d'abord en premier, avant de nous dire, de la nécessité de la nouvelle naissance. Vous savez que le Jourdain, c'est un fleuve en fait, qui a 3 sources. trois sources. Vous avez la source orientale, la source de l'Est, qui se trouve à Bagnas, donc, ce qui est l'ancienne Césarée de Philippe. Et vous avez un ruisseau abondant qui s'appelle le Bagnas et qui jaillit d'une source élevée. Après, vous avez la source centrale, qui est la plus importante, c'est à Tel El Kadi, c'est l'ancienne Dan, donc, et c'est là que sortent les eaux qui forment la grosse rivière appelée l'Edan. Donc, et puis vous avez la source du nord, qui est la plus élevée des trois, qui démarre de plus grande altitude, donc, et qui est intarissable, qui jaillit donc au-dessous du village d'Arbeya et donne naissance à un cours d'eau qui est appelé Arbani, donc. Et cette rivière a 64 km de plus que les autres, alors que le Ledan est plus large et le Bagnas plus beau. Mais donc, c'est un peu avant d'arriver au lac Houlé, que la Bible appelle les eaux de Mérom, donc c'est un peu avant d'arriver là que ces trois rivières se retrouvent pour former ce qui va être ensuite le Jourdain. Et de même, frères et sœurs, pour que la vie et la bénédiction de Dieu puissent couler dans une existence, dans une âme, il faut absolument trois sources aussi. Il faut trois sources, et ça c'est l'œuvre de la nouvelle naissance. Pour que la nouvelle naissance se fasse, il faut qu'il y ait une source qui vienne de Dieu. Hein ? Le Seigneur dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » C'est l'œuvre de Dieu. Hein ? Donc il faut qu'il y ait une œuvre de la puissance de Dieu. Dans Jean chapitre 3, verset 5, le Seigneur ajoute, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et ça nous parle de la nécessité de l'action divine. Heureusement, nous savons que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est Paul qui le dit à Timothée dans son épître, la première, au chapitre 2, au verset 4. Et nous savons donc que cette source-là, eh bien, elle coule d'une façon ininterrompue, d'une façon inépuisable, et que tous ceux qui s'approchent de Dieu peuvent boire en abondance de cette source-là. Amen. Ça, c'est la première source pour la nouvelle naissance. Après, il faut qu'il y ait aussi une source qui vienne de la part des chrétiens, de la part des serviteurs et des servantes du Seigneur. Lorsque l'apôtre Paul en parle, qu'est-ce qu'il dit ? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Romains chapitre 10, versets 14 et 15. Et comme ce passage insiste sur l'importance de la part des chrétiens, de la prédication, du témoignage des merveilles de Dieu, de ce que Dieu fait dans nos vies, de la vérité qui a été mise dans notre cœur par l'Évangile. Donc, pour que la vie de Dieu naisse dans le cœur de beaucoup, il faut que cette source du témoignage coule d'une façon régulière, coule d'une façon intarissable, afin que le Jourdain puisse se former dans le cœur de beaucoup, afin qu'il puisse naître de nouveau. Amen. Et puis vous avez une troisième source, c'est celle dans le cœur de ceux qui se tournent vers Dieu, de ceux qui se convertissent à Dieu, de ceux qui veulent voir le Seigneur agir pour eux. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre fait appel à leur volonté et à leur conscience, il dit « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Alléluia. Acte 2, versets 19 et 20. Ça, c'est quelque chose d'absolument primordial et d'incontournable. Vous savez, les gens, ils posaient des questions à Jésus, ils posaient des questions bizarres. Pilate avait écrasé une révolte de Galiléens, donc il avait mis à mort de nombreux rebelles. Alors, des gens demandaient à Jésus si ces gens qui ont été tués étaient des plus grands pécheurs pour avoir subi ce massacre-là. Hein. Et puis un autre jour, les disciples, face à un aveugle, posent la question, « Rabbi, pourquoi est-ce que cet homme est né aveugle ? Est-ce que c'est à cause de son propre péché ? Ou est-ce que c'est à cause du péché de ses parents ?» hein, c'est en Jean chapitre 9, verset 2. Voilà, on a l'impression que les gens perçoivent le malheur comme un châtiment. Et on entend parfois même des gens qui se lamentent de la façon suivante en disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ?» hein, ça existe aussi. Hein, et face à la succession des catastrophes qui frappent Job, eh bien ses amis, qu'est-ce qu'ils font ? mais ils cherchent à lui faire avouer des fautes cachées. Hein, donc là encore, ils argumentent et lui disent « Cherche dans tes souvenirs, quel est l'innocent qui périt ?» Mais il faut qu'on évite des raccourcis comme ça. Hein. Jésus, en tout cas, lui, tout malheur n'est pas la preuve d'une désobéissance à Dieu, hein, ni une sanction qui vient de lui. C'est vrai que le fumeur qui attrape un cancer, ce n'est pas la peine qu'il se plaigne de Dieu, hein. Il ne faut pas qu'il incrimine le Seigneur, par exemple. Hein. D'autre part, la question n'est pas pourquoi lui ou pourquoi moi, mais pourquoi pas tous ? C'est ça le sens de la réponse de Jésus. Hein. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il dit ? Dans ce massacre des Galiléens, ben, il voit une espèce de prélude au jugement final, et c'est pourquoi il donne là une consigne : si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Et du coup, il n'y a que deux possibilités. Soit périr, ou se repentir et vivre alors la vie éternelle, et vivre alors au-delà de la vie. Et c'est vrai que le malheur, il peut être impliqué par la cruauté des hommes, ou en conséquence naturelle d'une vie dissolue, ou simplement par accident. Eh bien, toute situation douloureuse, toute situation de problème de deuil, eh bien, ça devrait être pour tout homme un signal pour la repentance, hein, l'occasion de saisir le salut qui est offert par Dieu. Et donc, et c'est pour ça qu'il est important de se tourner vers le Seigneur aujourd'hui et sans plus tarder, parce que c'est notre part aussi pour que l'œuvre de la nouvelle naissance puisse se réaliser. Amen. Hein, donc, et à partir du moment où on voit que justement, ben, qu'on ne veut pas avoir un cœur dur, qu'on ne veut pas avoir un cœur sec, rempli d'orgueil, de propre justice, alors oui, la repentance, la conversion peuvent couler en abondance avec le désir d'obéir à Dieu et de marcher dans sa parole. Et pour que l'œuvre de Dieu donc puisse s'accomplir, la bénédiction être répandue, nous voyons donc bien la nécessité de la nouvelle naissance qui s'opérera lorsque ces trois sources vont couler et que leur cours va se rejoindre pour celui ou celle qui veut marcher avec le Seigneur. Amen. Notre premier point. Ensuite, une deuxième nécessité, c'est celle de la victoire sur l'ennemi. Alors, lorsque les trois sources du Jourdain se sont rejointes pour former le fleuve, déjà, alors quelques kilomètres plus loin, elles rencontrent un lac. Qui s'appelle aujourd'hui le lac Houlé, donc. Mais autrefois, le nom du lieu était les eaux de Mérom. Ce n'est pas un grand lac, il fait quelques kilomètres de long, tout au plus. Il nous en est parlé une seule fois dans la Bible, dans le chapitre 11 de Josué, hein, verset 5 au verset 7. Et en cette occasion-là, Josué avait rencontré un ennemi redoutable. Il faut se savoir, il faut se rappeler qu'auparavant, il y avait eu la victoire contre Jéricho. Ensuite, il y avait eu la victoire contre Haï et Bethel. Et puis ensuite, il y avait eu la victoire à Gabaon contre toute une coalition de rois du sud du pays. Et enfin maintenant, voici une coalition plus formidable encore, tous les rois du nord, tous les rois des alentours, dont il nous est fait l'énumération dans le début du chapitre 11. Mais au nom de l'Éternel, en une seule nuit, une fin de nuit, ils seront entièrement défaits, et ce n'est pas un hasard que c'est aux eaux de Mérom que cela s'est produit. Vous savez, Josué, remportant à ce moment-là la victoire sur un ennemi formidable, c'est une image de Jésus qui a remporté la victoire sur les ennemis puissants qui veulent nous empêcher de suivre le Seigneur, et qui vont se coaliser pour cela aux eaux de Mérom, c'est-à-dire peu de temps après que nous soyons convertis, peu de temps après que nous soyons nés de nouveau. Hein, donc, vous avez quoi comme ennemi ? Eh bien, vous savez, il existe les ennemis qu'on a en soi-même, hein, les passions mauvaises, le mauvais caractère, l'incrédulité, les péchés de toutes sortes qu'on a en soi-même. Quel est le secret pour avoir la victoire sur ces péchés ? Vous n'avez pas 50 solutions. C'est la soumission à Dieu, le secret pour avoir la victoire. Vous savez, c'est, je dirais quelque part, le secret de la vraie vie. Toute autre voie que la soumission à Dieu va déboucher sur des déceptions, de l'amertume, une attitude dépressive. Hein, et la Bible dit que la soumission à Dieu, c'est le véritable culte que nous lui devons. Hein, c'est le début de l'Épître aux Romains, chapitre 12. Et nous prouverons notre sagesse en disant toujours oui à Dieu. Hein, c'est ça la chose. Hein. Peut-être que des années nous sont nécessaires pour comprendre ça, Mais en tout cas, il est impossible d'obéir au plan de Dieu pour notre vie tout en suivant notre propre volonté. C'est pas possible ça. On peut pas faire les, on peut pas courir ces deux lièvres à la fois. Hein. Donc, et avant de que Dieu puisse transformer notre caractère, nous avons besoin de nous soumettre à lui et nous avons besoin de tout abandonner à ses pieds. Hein. C'est-à-dire nos regrets, nos problèmes du moment, nos ambitions futures, nos peurs, nos rêves, nos faiblesses, nos habitudes, nos blessures. Faut tout laisser au pied du Seigneur et lui laisser prendre en main le gouvernement de notre vie. Amen. Un des plus grands hommes de Dieu du XXe siècle s'est appelé Bill Bright. Donc, et il a travaillé beaucoup pour l'Évangile. Et il a été un moyen. Il a fait des tracts qui ont été très utiles dans l'évangélisation. C'est lui qui a été à l'origine du film Jésus, qui a été vu par 4 milliards de personnes sur la Terre. C'est quand même quelque chose, hein. De nombreux millions de personnes ont connu Jésus-Christ par ce moyen-là. Et un jour, on lui demandait, mais pourquoi est-ce que vous pensez que Dieu s'est servi de vous de cette manière-là ? Alors il a répondu, ben vous savez, alors que je n'étais qu'un adolescent, j'ai passé un contrat avec Dieu. J'ai vraiment écrit un contrat sur une feuille, daté et signé ce document qui disait « À partir d'aujourd'hui, je deviens esclave de Jésus-Christ. » À partir d'aujourd'hui, je deviens esclave de Jésus-Christ. Est-ce que nous serions capables d'en faire autant de tout notre cœur ? Vous savez, la condition de base pour la victoire sur les péchés secrets, sur les mauvaises habitudes et sur le mauvais trait de caractère, eh bien, c'est cette soumission pleine et entière au Seigneur. Et voici aussi la pleine bénédiction et le plein exaucement à nos prières. Amen. Amen. Voilà, donc, la nécessité de la victoire sur l'ennemi, c'est déjà sur les ennemis qui sont en nous-mêmes. Ensuite, vous avez les ennemis autour de nous, c'est vrai. Hein, dans ce monde où nous vivons, ce monde qui est hostile aux choses de Dieu de manière globale, hein, les circonstances que nous pouvons traverser, c'est vrai, il y a aussi les ennemis qui sont là. Et puis vous avez le diable et vous avez les esprits méchants qui veulent absolument tout faire pour nous détruire et pour nous arrêter dans la voie du Seigneur. Mais en lui et avec lui, nous sommes vainqueurs. Amen. C'est lui qui nous fortifie si nous avons à cœur de lui obéir et de lui obéir de tout notre cœur. Vous savez, quand j'étais gamin, on avait des poules chez nous. Hein. Il y avait un enclos où les poules étaient là. Et moi, j'aimais bien attraper les poules. Mon père me rouspétait quand je le faisais, mais j'aimais bien attraper les poules. Vous savez pourquoi j'aime bien les attraper ? Déjà parce que ça fait du bruit, ça caquette dans tous les coins. Et puis ça bat des ailes. Et vous savez, vous avez remarqué quelque chose, quand vous avez réussi à attraper une poule, vous savez quoi ? Vous la prenez, vous la tenez là, à la bout d'un moment, elle ne bouge plus, elle tourne la tête d'un côté de l'autre, comme ça, elle regarde ce qui va lui arriver. Alors, vous la posez par terre, et vous la lâchez, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh ben non, justement pas. Elle ne bouge pas. Vous savez pourquoi ? Parce que pendant un moment, elle se croit encore prisonnière. Elle se croit encore prisonnière. Alors, vous faites ça doucement, hein ? Vous la posez, et vous la tenez, et puis vous relâchez vos mains comme ça. Et puis vous voyez, elle est là, elle ne bouge pas, elle se croit encore prisonnière. Vous savez, c'est ça que le diable fait avec nous. Le diable est fait avec nous, il aime bien nous attraper. Hein. Et puis le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il va nous libérer. Le Seigneur, il est là pour nous libérer. Il nous dit, vous êtes libres. Et puis nous, des fois, qu'est-ce qui se passe ? Mais on croit qu'on est encore prisonnier. Hein, le diable, il aime bien s'arranger pour que, et tu ne vas pas arriver à te débarrasser de tes mauvais comportements, de tes mauvaises habitudes, etc. Eh bien, mais vous savez, le Saint-Esprit nous dit qu'avec le Seigneur, nous sommes devenus réellement libres. Alléluia. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et c'est une réalité. Et par notre lecture de la parole de Dieu, par notre prière, par la puissance du Saint-Esprit, eh bien Dieu œuvre à nous purifier, à nous faire vraiment bénéficier de cette liberté. C'est lui qui a dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Hein ? C'est dans Jean chapitre 8, verset 36. Alors, quand on va donner son cœur et sa vie au Seigneur, eh bien, on va expérimenter cette glorieuse liberté. Alléluia. Béni soit son nom. Amen. Et puis nous poursuivons, et puis nous poursuivons, et puis voici maintenant une autre nécessité, la troisième, la nécessité d'avancer rapidement dans les voies de Dieu, parce que la géographie montre que le Jourdain, en sortant des eaux de Mérom, va entrer dans la partie la plus raide et la plus rapide et la plus pentue de son cours. C'est là qu'il va se mettre à descendre rapidement, en dessous du niveau de la mer, donc, jusqu'à ce qu'il entre dans la mer de Galilée. Mer de Galilée, ou lac de Génézareth, comme vous pouvez appeler ça comme vous voulez, donc. Et peu après être sorti des eaux de Mérom, donc, il entre dans une gorge étroite, profonde, où il est comme un torrent rapide qui se précipite de l'avant, dans les remous, dans l'écume, et là, il n'y a pas d'hésitation, ni de méandre, mais une course, un cours décidé vers le but. Hein. Et combien, là aussi, il faut qu'il en soit ainsi pour nous. Quand le Seigneur nous a donné des victoires, des délivrances, il ne faut pas que nous hésitions plus longtemps, mais que nous allions de l'avant, d'une façon décidée, dans la voie de l'obéissance. Alléluia. Même si la gorge est étroite, ce n'est pas grave. Hein. Souvenons-nous que large est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a, hélas, peu qui le trouvent, parce qu'il faut le chercher pour le trouver. Hein. Donc, voilà. Donc, et le Seigneur est celui qui veut nous faire prendre la victoire et passer de l'autre côté. Amen. Jésus dit à ses disciples, allons de l'autre côté du lac. Vous savez, le diable, il ne tient pas à ce qu'on passe de l'autre côté. Le diable, ça ne le dérange pas qu'on vienne au culte le dimanche matin, ça ne le dérange pas qu'on chante, ça ne le dérange pas qu'on fasse beaucoup de bonnes œuvres. Mais ce qui le dérange, c'est quand on va faire la volonté de Dieu pour notre vie. Ah, c'est ça qui le dérange. C'est ça qu'il déteste au plus haut point. Donc, et il sait très bien que l'enjeu de l'autre côté du lac, hein, bien, ça vaut bien les douleurs et les souffrances qu'on vit aujourd'hui. Donc, ça implique un changement profond, c'est vrai. Ça implique le fait de passer par la croix. Hein, l'apôtre Paul déclare, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ceux qui étaient de l'enfant. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut arrêter de cesser et de se comporter comme un gamin. Hein. Ça veut dire qu'il faut arrêter de penser comme un enfant, il faut grandir, il faut acquérir de la maturité spirituelle. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons décider de le faire. Hein. Donc là encore, et c'est pour ça qu'il faut réfléchir aux changements qui sont à faire aujourd'hui peut-être. Ben oui, aujourd'hui, hein, réfléchir peut-être, je ne sais pas, modifier notre emploi du temps afin que Dieu y trouve enfin la première place. Hein, peut-être, voilà. Peut-être réévaluer les relations qu'on a en ce moment. Réfléchir, ma relation avec telle... Bon, il faut qu'on dise qu'on soit poli avec tout le monde. Hein, le contact qu'on a avec les gens doit être celui d'un chrétien. Mais nos relations suivies qu'on a, est-ce qu'elle nous aide à nous rapprocher du Seigneur ou pas? Hein, voilà, là, il faut choisir ses relations, mes amis. Hein. Faut pas laisser tout arriver comme ça sans contrôle de notre part. Est-ce que nous devons changer certaines attitudes, certaines habitudes peut-être? Hein. Les paroles qui sortent de notre bouche, est-ce que ce sont des paroles de doute, de peur? Ou est-ce que ce sont des paroles qui affirment notre foi, notre confiance, notre amour pour ceux qui nous entourent? C'est vrai, ça peut être, et ça doit être un moment en tout cas, le moment de passer de l'autre côté. Amen. Et voici venu le temps de prendre des engagements. Ben oui, c'est l'engagement du baptême aussi, hein, parce que on pense que c'est probablement dans cette partie-là que Jean-Baptiste baptisait. Hein. Donc, on ne sait pas exactement où c'était. Il nous est parlé des noms près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, hein, dans Jean chapitre 3, verset 23. Mais nous savons donc que c'était malgré tout dans le Jourdain. Et c'est dans le Jourdain aussi que le Seigneur Jésus lui-même a pris son baptême, alors que s'il y avait quelqu'un qui n'avait pas besoin de le prendre, c'était bien lui. C'était bien le seul qui n'a pas besoin de prendre le baptême. Hein. Mais il l'a fait, nous laissant un exemple, afin que nous suivions ses traces. Comme il a dit lui-même, accomplissant ainsi tout ce qui est juste. Alléluia. Et plusieurs passages, dont Marc chapitre 1, verset 5 et verset 9, nous rappellent bien que c'est dans le Jourdain que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Et c'est pour ça que l'engagement dans la parole de Dieu, l'engagement dans la prière, dans le témoignage, dans une vie de disciple, dans la coupure avec tout péché, eh bien il faut que ça puisse être fait rapidement, comme ce cours rapide du Jourdain qu'il y a entre les eaux de Mérom et la mer de Galilée. Amen. Priorité à l'Éternel Dieu. Vous savez, on en parle et on en reparle tout le temps. Pourquoi ? Parce que c'est une des disciplines qui est le plus compliqué à mettre en place et à maintenir pour le chrétien. Donc, garder un tête-à-tête avec Dieu journalier dans la prière, hein, dans la parole de Dieu, étant indispensable, nécessaire, chaque jour, hein, et même, pourquoi pas, plusieurs fois par jour, parce que le monde est là, il y a toujours quelque chose de plus important, il y a toujours quelque chose de plus urgent, de plus incontournable, qui nous arrive là, et qui paraît plus important que ce moment de méditation, hein. Mais vous savez, nos excuses ne tiennent pas toujours la route devant Dieu, hein. Il faut quand même qu'on se dise ça. Hein, on raconte l'histoire du comte von Pfeil, qui était un ministre donc de Frédéric II, roi de Prusse. Donc là, nous sommes au XVIIIe siècle. Et cet homme pieux considérait comme prioritaire de passer chaque matin une heure en communion avec Dieu et dans la lecture de la Bible. Et son secrétaire avait ordre de ne jamais le déranger durant cette heure-là. Et voilà qu'un jour, le roi en personne arrive. Il veut voir son ministre, il veut entrer dans son bureau. Alors, le secrétaire, il ne savait pas ce qu'il fallait faire, s'il fallait barrer la route au roi ou désobéir à son maître. Et finalement, il explique au roi, à Frédéric II, ce que faisait von Pfeil. Et le roi lui a répondu, « Fort bien, j'attendrai. Fort bien, j'attendrai. » Et ainsi donc, même le roi avait compris où était la priorité. Tout monarque qu'il était, et respect qu'on lui devait, il devait attendre son tour après Dieu. Voyez-vous, hein, donc, et de fait, le roi des rois, est-ce qu'il ne peut passer avant n'importe qui, avant n'importe quoi dans notre vie ? Ah, la question est là, hein, voilà la question, hein, et c'est vraiment lorsque nous réalisons ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il est pour nous, que je crois, nous commençons à comprendre que c'est lui qui doit avoir la priorité des priorités, n'est-il pas vrai ? Hein ? Donc voilà. Ça, c'est quelque chose aussi de fondamental et d'important pour nous tous. J'avance, et nous voici à notre quatrième point, la nécessité de l'assemblée. Parce que voilà le Jourdain qui arrive à une nouvelle étape de son parcours. Il va traverser, cette fois-ci, un très grand lac, la mer de Galilée. Il va retirer un très grand bénéfice. En effet, s'il y est entré sous la forme d'une grosse rivière, il va en ressortir sous la forme d'un fleuve bien plus large. Or, il n'y a aucun cours d'eau important qui entre dans le lac en dehors du Jourdain. Donc, les eaux supplémentaires proviennent de sources souterraines, hein, donc sous le lac. Et les nageurs du lac, paraît-il, s'en aperçoivent rapidement en découvrant des courants chauds ou des courants froids qui les réchauffent ou qui les font frissonner alternativement. Et ainsi en est-il de ceux qui s'engagent dans l'assemblée comme le Jourdain s'engage dans cette mer de Galilée. Hein. Les voilà qui sont bénis en abondance et bien souvent d'une façon invisible. On se demande d'où vient cette bénédiction. Hein. Lorsqu'on est renouvelé dans l'assemblée, dans la présence du Seigneur, dans la paix, dans la joie, dans le repos, lorsqu'on est renouvelé, combien de fois en force, en énergie et en santé, hein, lorsqu'on est renouvelé en foi, en fermeté, en conviction, lorsqu'on est renouvelé en assurance, en certitude divine, et ça vient de celui qui est capable de donner les sources supérieures et les sources inférieures, alléluia, de celui qui pourvoit aux besoins de ceux qui se confient en lui et qui choisit de le faire très souvent au travers de l'assemblée. Hein, donc voilà. Et souvenons-nous aussi des multitudes de choses que Jésus, le Seigneur Jésus, a accomplies sur cette mer de Galilée ou dans ses alentours immédiats lorsque nous lisons les évangiles. Rappelons-nous combien de fois il a enseigné les foules, soit sur les berges, soit depuis la barque qui flottait et leur donnant ainsi tout le conseil de Dieu. Souvenons-nous qu'il s'est produit là des multitudes de miracles, de prodiges, de guérisons, de délivrances. Souvenons-nous que c'est là aussi qu'il a révélé à ses disciples sa toute-puissance, lorsqu'il a arrêté devant eux le vent et la mer de la tempête. Hein, n'est-ce pas là aussi qu'il leur a fait faire toutes sortes d'expériences spirituelles, comme le fait de marcher sur les eaux pour Pierre, hein, certaines des expériences en tout cas profondes, importantes, pour leur service à venir. Il s'est servi de cette mer de Galilée aussi, quelque part, comme un trait d'union entre le peuple de Dieu et les païens. Rappelez-vous, le jour où il a laissé les foules qui l'écoutaient d'un côté, pour passer de l'autre côté et aller délivrer ce démoniaque gadarénien. Et il s'est ainsi préparé, parmi les païens, un peuple bien disposé au travers du témoignage puissant que cet homme a rendu. Et ainsi, cette mère de Galilée nous montre l'importance pour le chrétien, pour le fidèle, de s'engager dans l'assemblée. S'engager dans cette œuvre de Dieu comme le Jourdain s'est engagé dans ce lac, comme il s'engage dans ce lac. Et ceci pour écouter la parole, les enseignements du Seigneur, ceci pour voir des guérisons, des signes de toutes sortes, ceci pour faire des expériences profondes et vraies, et pour amener aussi les âmes des ténèbres à la lumière, pour être à leur égard un moyen d'union avec le peuple de Dieu. Amen. Notre cinquième point maintenant nous parle de la nécessité d'apporter la bénédiction là où Dieu nous place ou là où Dieu nous fait passer, parce que après sa sortie de la mer de Galilée, le Jourdain est moins pressé. Il est plus large, il est plus majestueux, il fait des boucles, des méandres dans la vallée, et cette vallée, d'ailleurs, va devenir quelque part comme un véritable petit jardin d'Éden, à la végétation abondante, luxuriante. Vous avez des fourrés, des tamaris, des lauriers roses, des saules, et l'irrigation fait pousser là toutes sortes de fruits et de produits plus excellents les uns que les autres, des produits tropicaux en particulier. Cette irrigation, bien sûr, vient du Jourdain, et quand on survole la région, bien, on voit très nettement la large bande fertile et verte qui est là, qui correspond à cette vallée, dans ce fleuve qui répand la vie partout où il passe. Amen. Et ainsi peut faire aussi celui qui s'est engagé dans l'œuvre de Dieu et qui a persévéré tout au long. Lui aussi, il sera béni en abondance de manière à pouvoir être en bénédiction. Ce n'est pas pour garder la bénédiction pour lui-même, mais c'est pour être un moyen de bénédiction autour de lui, par ses paroles, par ses actions, par ses attitudes, par ses prières, par son témoignage, par sa présence, par son secours. Et bien, il vise à être en bénédiction, et Dieu l'accompagne de la bénédiction. Voilà, la question toujours, c'est quand Dieu nous appelle à faire une tâche, comment est-ce qu'on réagit? Ah, vous en avez certains, ils ignorent tout simplement son appel. Vous avez d'autres qui soupirent en disant « quand j'aurai fini de faire ce que je fais en ce moment, alors je ferai de mon mieux pour t'obéir ». Après, vous en avez qui commencent à poser des questions, mais est-ce que cette tâche sera difficile? Et combien est-ce que ça va me coûter, etc. Enfin, d'autres, comme Samuel ou comme Pierre, vont se contenter de dire « me voici Seigneur ». Rappelez-vous ce que Jésus a dit à Pierre, c'est dans Luc chapitre 5, verset 4, « avance plus loin ». Là où l'eau est profonde, et puis jetez vos filets pour pêcher. Vous savez, Pierre n'a pas discuté, Il aurait pu dire, je suis trop fatigué, il savait pêcher toute la nuit, Ou il aurait pu dire, mais toi, tu es un charpentier, là, qu'est-ce que tu connais de la pêche, Il aurait pu, non, il n'a pas fait ça. Il a obéi, et il s'est avancé vers le large, vers les eaux profondes, pêcher dans les eaux plus profondes. Pourquoi, à votre avis? Il y a un pêcheur ici? Non, pas trop. Des pêcheurs, il y en a beaucoup, comme moi y compris. Mais un pêcheur, il vous le dira. Il vous le dira parce que les gros poissons, ils ne vont pas vers le bord. Les gros poissons, ils restent dans les eaux profondes. Ah, voilà. C'est pour ça que Jésus lui a dit d'aller dans les eaux profondes. Eh bien, ça, c'est important, vous savez. Et donc, et ça, c'est une question. Donc, si on a peur de s'aventurer en eaux profondes, on se contentera toujours de menus fretins, Faut bien se dire ça. Donc, si on veut bénéficier du meilleur que Dieu veut nous offrir, alors c'est vrai qu'il faut quand même prendre des risques. Et Pierre, il n'a pas écouté sa fatigue ni ses craintes. Il est allé là où Jésus l'a invité à aller. Et rappelez-vous quand même que c'était le seul, même s'il a plongé un moment, c'était quand même le seul des disciples qui a marché sur l'eau. Donc, et la plupart des croyants, vous savez, ils font malheureusement comme ses disciples, ils restent dans la barque, de préférence pas trop loin du rivage, de ne pas essuyer trop de tempêtes. Seulement, voilà, le Seigneur veut que nous vivions par la foi. Et il veut que nous puissions quand même aussi prendre des risques, parce que ça va avec. Et puis, donc, c'est de cette manière aussi que le Seigneur veut accomplir pleinement ses promesses. Amen. Amen. Et j'avance et je vois encore mon sixième point, c'est la nécessité de veiller à cause de l'adversaire. Parce qu'il nous est expliqué, dans deux passages au moins, que cette végétation, cette belle végétation si touffue, malheureusement, vous n'y avez pas que des animaux très gentils. Et c'est pour ça qu'il est marqué, Jérémie 49, verset 19, « Voici, tel un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. » Donc il y a des lions là-dedans, hein, dans cette partie-là. Zacharie chapitre 11, verset 3, il est marqué « Les lions s'en rugissent parce que l'orgueil du Jourdain est abattu. » Donc voilà. Et de même, vous savez, c'est parce qu'on est avancé, parce qu'on est bien avancé dans le chemin de Dieu que l'ennemi ne peut plus nous atteindre. Hein? Mais au contraire, eh bien, combien il nous faut demeurer d'autant plus dans la veille et dans la prière. Rappelez-vous ce que l'apôtre Pierre nous dit au chapitre 5, au verset 8. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, résistez-lui avec une foi ferme. » Vous savez, il ne faut pas qu'on s'imagine que parce qu'on avance dans le chemin de Dieu, on a moins besoin de prière. Au contraire, plus on avance dans le chemin de Dieu, plus on a besoin de prière. Et si vraiment on avance, plus on est conscient de notre besoin de prière, notre besoin de prière personnelle, et puis notre besoin des réunions de prière de l'Église aussi. Hein, plus on est conscient de cela, et plus on va s'y attacher. Et c'est important et fondamental également. Et puis enfin, notre septième point, la nécessité de prendre garde à la mort spirituelle, parce que nous voyons que le Jourdain finit sa course dans la mer morte. Et là, son eau douce disparaît. Hein. La vie du Jourdain disparaît dans cette eau-là. Les poissons qui se laissent entraîner là, bien, ils meurent irrémédiablement. L'eau y coule, l'eau coule dans la mer morte, mais rien n'en ressort. Déjà, vous remarquez ça ? Et c'est quelque chose d'impressionnant. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un endroit très chaud, alors tout s'en va par évaporation. Et à ce moment-là, tous les sels minéraux, vous savez, qui arrivent, eh bien, ils se concentrent de plus en plus. Ça veut dire que l'eau de la mer morte devient de plus en plus salée, de plus en plus minérale, de plus en plus. C'est pour ça que vous pouvez voir des gens qui flottent dans cette eau de la mer morte sans avoir besoin de nager. Hein. C'est d'ailleurs ceux qui aiment se baigner là-dedans, ma foi, c'est leur affaire. Hein, mais en tout cas, voilà, c'est une image de mort. C'est une image de mort spirituelle aussi, parce que dans la mer morte, bien, tout est mort, tout est jugement. Donc, nous l'avons dit, ces eaux ne laissent subsister aucune vie. Sodome et Gomorre étaient proches de cet endroit-là. Hein, donc, et la mer morte est un lieu de souvenir et d'avertissement en ce qui les concerne. Et combien ceci doit nous pousser à fuir ce péché qui mène au jugement, pardon. Ça doit nous pousser aussi à fuir l'égoïsme, vous savez, l'égocentrisme, parce que la mer morte, c'est ça, toujours recevoir, jamais redonner. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment tuer la bénédiction en nous, et c'est ça aussi qui est important. Et c'est pour cela, frères et sœurs, qu'il faut vraiment que nous puissions aussi mettre le Seigneur en premier dans notre vie, et marcher dans son chemin, et marcher dans ses voies. Amen. Alors comme Naaman s'est plongé sept fois dans le Jourdain, ainsi plongeons-nous aussi dans ces sept nécessités que nous enseigne le Jourdain aujourd'hui. Plongeons-y par la foi pour saisir toutes ces choses sans exception, parce que c'est ainsi que comme Naaman a été débarrassé de sa lèpre, nous aussi nous serons débarrassés de la lèpre du péché, de ses conséquences, de l'incrédulité, de l'aveuglement qui en résulte. Rappelons la nécessité de la nouvelle naissance, la nécessité de la victoire sur l'ennemi, la nécessité d'avancer rapidement dans la voie de Dieu, la nécessité de s'engager dans l'assemblée, la nécessité d'apporter la bénédiction là où Dieu nous place, la nécessité de veiller à cause de l'ennemi qui est toujours bien présent, la nécessité de prendre garde à la mort spirituelle. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose d'important, parce que nous, ce que nous voulons arriver à ce point-là, donc nous, ce que nous voulons, ce n'est pas continuer à descendre vers la mort, mais nous voulons marcher dans une démarche d'ascension, hein, d'ascension spirituelle. Vous avez une plaque dans les Alpes, une plaque commémorative dans une montagne des Alpes, où il est marqué « Mort dans l'ascension ».« Mort dans l'ascension ». Et c'est un hommage à un guide de montagne qui a perdu la vie en portant secours à une personne victime d'un accident. Dans la Bible, il est dit au sujet d'Aaron, dans Nombre 33, verset 38, « le sacrificateur Aaron monta sur la montagne de Hor, suivant l'ordre de l'Éternel, et il y mourut. Il monta sur la montagne et il mourut. Et de la même façon, nous le lisons au sujet de Moïse, qui devait monter sur la montagne d'Abarim pour contempler le pays que Dieu allait donner aux Israélites, et après cela, lui aussi devait mourir. Nombre chapitre 27, versets 12 et 13. Et c'est vrai que l'année a commencé maintenant, ça fait déjà un petit moment, mais quand même, il y a beaucoup de choses à faire dans cette année en cherchant les choses d'en haut, frères et sœurs, en élevant nos cœurs et nos âmes, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Et le verset suivant nous dit, Colossiens chapitre 3, verset 1, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Vous savez, il existe des plantes grimpantes qui s'accrochent à quelque chose pour pouvoir mieux s'épanouir. Le haricot, par exemple, en fait partie. Donc, plus il pousse, plus il va s'enrouler autour de son support, mais c'est impressionnant parce que plus aussi il va s'enrouler rapidement autour de son support. Au début, les branches ne vont tourner sur le support qu'une fois par jour. Et puis après, elles vont finir par effectuer jusqu'à 8 mouvements en spirale en 24 heures. Vous vous rendez compte? C'est considérable, hein? Et toujours vers le haut. Et parce que ça, c'est une chose qui se vérifie sans exception, toutes ces plantes-là, elles doivent grimper si elles veulent se développer. Des plantes grimpantes qui ne trouvent pas de support et qui par conséquent ne s'élèvent pas, mais qui rampent sur le sol, sont en général rabougries, inesthétiques, et elles ne portent pas de fruits. Et c'est un très bon exemple pour notre vie. Nous devons nous élever pour porter du fruit. Le fait de nous attacher aux choses terrestres, c'est quelque chose qui va freiner notre croissance spirituelle. On va décliner, on ne portera aucun fruit. Le Seigneur Jésus nous soutient dans cette quête. Orientons-nous donc vers lui, accrochons-nous fermement à lui et à sa parole dans la foi. Et c'est ça qui va nous permettre de grandir et de porter du fruit, parce que lui seul est notre soutien. Amen. Le problème, c'est que trop souvent, on se laisse préoccuper par les choses terrestres plutôt que par le lieu où se trouve le Seigneur. On se laisse absorber, voilà, par les choses de ce monde, par les soucis, par la recherche de la richesse, l'accumulation d'objets, par les plaisirs, les désirs. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont accaparés par des vidéos, par des séries, et ils s'intéressent qu'à ça. On le voit, même chez les chrétiens, on voit ça, Puis après, j'ai pas le temps de lire la Bible. J'ai pas le temps de prier. D'accord, vous savez, 24 heures au jour, il n'y a pas plus, Donc, il faut qu'on les gère, Et puis les gens, ils sont pris par ça, et ils sont hypnotisés, tel une proie devant un serpent, C'est impressionnant de cela. Et puis, après, on se pose la question, pourquoi de nombreuses personnes, y compris des chrétiens, dépérissent. Voilà, ils sont par terre, sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés aux choses terrestres. Voilà, le problème est là. Et aujourd'hui, en plus, vous avez les inquiétudes à propos du changement climatique, la peur de l'inflation, de l'effondrement économique. Et voilà, les gens qui se laissent emprisonner par toutes ces choses. Et c'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous levions les yeux vers son Fils, vers le chef et le consommateur de la foi. Alléluia. Il veut que nous cherchions son royaume et que nous soyons des porteurs d'espoir céleste pour ceux qui sont encore captifs sur la terre. Amen. Mort dans l'ascension. Mort dans l'ascension. Nous voulons poursuivre l'ascension jusqu'à ce que nous soyons à ses côtés. Amen. Amen. Je vous lis encore tout à fait pour finir les dernières paroles du grand commentateur, homme de Dieu, Matthew Henry. Donc, c'est lui qui a fait, à mon sens, le meilleur commentaire de piété de toute la Bible, verset par verset. Donc, il a fait ça au début du XVIIIe siècle. Et alors qu'il était gravement malade, il savait qu'il n'avait plus longtemps à vivre, quelqu'un lui demanda s'il n'avait pas une dernière parole à dire aux chrétiens d'Angleterre qui en étaient venus à tant l'aimer et à regarder à lui pour être conduit spirituellement. Alors, il a dit oui. Oui, j'en ai une parole. Et voici quelle fut sa dernière déclaration. Une vie passée au service de Dieu et en communion avec lui est l'existence la plus réconfortante et la plus plaisante que n'importe qui puisse vivre dans ce monde. Je vous relis ça. Une vie passée au service de Dieu et en communion avec lui est l'existence la plus réconfortante et la plus plaisante que n'importe qui puisse vivre dans ce monde. Et le lendemain, il partit pour sa demeure céleste auprès du Seigneur. Amen. Hein, que nous puissions chacun, chacune, prêter grande attention à cette dernière et solennelle proclamation d'un précieux homme de Dieu qui a été aussi évidemment béni et favorisé par Dieu pour mettre cela en œuvre dans tout notre, de tout notre cœur, dans le service qu'il a préparé pour chacun de nous et dans sa communion bénie. Amen. Te remercions, Seigneur, encore pour ta grâce et ton amour envers nous. Te remercions pour tes bontés. Te remercions pour ta grande miséricorde. Te remercions pour les cordages d'amour par lesquels tu veux nous attirer à toi. Te remercions parce que tu es toujours présent et attentif pour écouter notre prière. Et merci, Seigneur, parce que tu es celui qui veut vraiment nous attacher à toi et serrer dans nos cœurs toutes ces précieuses leçons que tu nous donnes au travers de la géographie même de ce pays que tu as choisi pour ton peuple et que tu as choisi pour nous aussi comme moyen d'édification et de salut. Sois glorifié, Jésus, c'est notre Dieu, nous te bénissons. Amen, Jésus, alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans plusieurs annonces, la réunion de prière, c'est mercredi à 20h15. Alors, ce mercredi, je devrais avoir Michel et Annabelle Evrard, ainsi que Timothée et Maud qui devraient être là. Voilà. Les questions-réponses bibliques, c'est vendredi à 19h15. La réunion d'évangélisation, vendredi à 20h15. Et je vous rappelle la distribution d'invitations dans les villages, samedi à 14h30. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et vous soutienne.